Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, la guerre des mots, un combat très politique. Bonjour Cécile Alduy, vous êtes sémiologue, professeure de littérature à l'université Stanford en Californie, chercheuse associée au CIVIPOF à Sciences Po, spécialiste du discours politique. Vous aviez publié au Seuil en 2017 « Ce qu'ils disent vraiment, les politiques pris au mot ». Dans un monde politico-médiatique où la parole semble peser davantage que les actes, le combat des idées n'en passe que davantage par le vocabulaire. Celui qui impose ses mots et le sens qu'il y met derrière obtient un avantage concurrentiel conséquent sur ses adversaires. Il maîtrise les termes du débat, c'est un peu comme jouer à domicile pour une équipe de foot. Exemple le plus récent, le séparatisme islamiste d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était à Mulhouse cette semaine pour annoncer des mesures visant à lutter contre ce phénomène. En imposant avec une facilité déconcertante ce terme de séparatisme, il donne l'impression de décrire une réalité objective, alors qu'il s'agit tout autant de défendre, à travers ce lexique, une politique. Dire, c'est faire. Mais ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas les seuls à malaxer le vocabulaire dans le sens qui leur convient. On a vu ainsi ces derniers mois apparaître des termes comme féminicide, écocide, effondrement. Là encore, il ne s'agit pas seulement d'approcher la vérité d'une situation, mais de mener un combat contre les violences faites aux femmes, contre la destruction de l'environnement. Alors, est-ce à dire que la lutte politique en sort régénérée ? Bien, ça se discute, car en parallèle de ces mots très offensifs, s'est installée une sémantique beaucoup plus fade, une novlangue bureaucratique teintée de culture start-up qui, en donnant l'illusion du renouvellement, appauvrit considérablement la pensée, au point qu'on finit par perdre le sens d'autres mots qu'on croyait universels, comme par exemple la démocratie. Alors la guerre des mots, un combat très politique, c'est donc le thème de ce nouveau numéro de Politique en votre compagnie. Cécile Alduy, est-ce que pour commencer, on peut dire que pour avoir une idée des clivages qui existent dans un pays et des rapports de force politiques, il faut s'intéresser de près aux mots qui sont utilisés?
Oui, je pense que les mots utilisés sont à la fois, comme vous l'avez décrit, des instruments au profit d'un combat politique, en général d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire d'imposer les termes du débat et donc les questions qui vont s'imposer, notamment dans les élections. Mais c'est aussi un reflet des crises existentielles de ces sociétés. Le fait que féminicide soit aujourd'hui, après la vague MeToo, un mot qui est devenu presque banalisé dans les médias, est extrêmement éclairant sur un avant et un après de ce phénomène MeToo, où on est dans un point de non-retour sur le combat féministe aujourd'hui. Je pense que donc c'est un effet miroir, les mots, par rapport à la société qui les véhicule.
Alors, sur cette notion de féminicide, écoutez ce qu'en disait récemment la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.
Ce terme féminicide que maintenant on emploie partout, il a été entré dans le vocabulaire institutionnel par le président de la République qui l'a prononcé à l'ONU et par moi-même et par notre gouvernement qui l'avons impulsé. Et les mots sont importants. On ne parle plus de violence faite aux femmes avec une forme passive, mais de féminicide et de violence sexiste.
Comme
et
on dit infanticide.
Exactement, pour rendre visible ce phénomène particulier du meurtre de femmes par leur conjoint ou par leur ex-conjoint.
Commentaire Cécile Alduy.
Alors là, tout de suite, il y a l'instrumentalisation en revendiquant d'avoir été les premiers à nommer, à utiliser ce terme, alors que historiquement, c'est pas tout à fait vrai. C'est un terme que on a repris à la fois de féministes américains et du mouvement contre le féminicide en Amérique latine. Mais ce qui est important, en fait, derrière ce vocabulaire, c'est de nommer une réalité systémique. Donc, c'est de passer d'une description de faits divers à une analyse de société qui fait des meurtres de femmes par leurs conjoints, leurs ex, leurs compagnons, l'aboutissement d'un continuum dans des violences sexistes. Et donc, c'est d'essayer de décrire à travers un mot percutant, qui va interpeller parce qu'il est nouveau, une réalité qui n'avait pas été comprise et appréhendée de manière structurelle.
Mais parler par exemple de violence contre les femmes, ça ne suffit pas à donner la mesure de ce problème systémique, Cécile Alduy.
Alors c'est-à-dire que les violences ne vont pas toujours jusqu'au meurtre, donc le féminicide est beaucoup plus précis que violence contre les femmes. Les féminicides, c'est l'idée des femmes sont tuées parce qu'elles dérogent à la position que leur assigne une société patriarcale qui est de consentir au sexe, à la sexualité imposée par leur mari ou leur compagnon, d'être un objet de consommation, de ne pas avoir le droit de dire non ou de partir d'une situation conjugale. Donc le féminicide, il essaie de mettre un mot sur un phénomène structurel qui est le pouvoir d'autonomie des femmes dans les relations conjugales et le déni qui est fait aux femmes d'avoir cette autonomie. Du coup, je pense que le féminicide, le fait que ce soit maintenant intégré dans la langue des médias, notamment, même chez les juges, cela ouvre une fenêtre sur une pensée plus globale sur la société. Et donc, c'est pas simplement d'écrire tel acte, dans quel registre pénal il se situe, mais aussi qu'est-ce qu'il dit de la société dans son ensemble et de son regard sur les femmes.
Est-ce que c'est pas aussi un terme qui permet, alors il y a féminicide, mais il y a un autre terme avec le suffixe en cide, c'est l'écocide par exemple, alors là aussi qui est un mot assez ancien, hein, qui date je crois de l'après Seconde Guerre mondiale, mais qui est là vraiment et de plus en plus utilisé à la faveur de la crise climatique. Est-ce que ce ne sont pas des mots qui induisent des actions à mener, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont endossés dans le débat politique, ça veut dire que on est presque obligé derrière de prendre des mesures qui tiennent compte de ce constat.
Exactement. D'ailleurs, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale en décembre 2019 pour savoir si on allait l'inscrire dans la loi. Et ça a été rejeté, justement parce que ça impliquerait des actions concrètes. Et donc là, il y a deux choses différentes dans l'utilisation de ces mots à la fois nouveaux et percutants, qui est d'une part une prise de conscience, parce que la nouveauté même du mot interpelle et fait réfléchir. Et deuxièmement, les conséquences, soit législatives, soit de politique publique, qui découlent de la prise de conscience. Et si on parle d'écocide, il faut faire quelque chose. Et je voudrais d'ailleurs revenir sur la classe de mots auquel appartient écocide et féminicide. Ça participe de leur efficacité politique. Comme ils font écho à la fois infanticide, parricide, génocide, ils se situent d'emblée, pour les personnes qui entendent ce mot, dans un interdit absolu, puisque tant le génocide que le parricide, l'infanticide, ce sont des interdictions anthropologiques fondamentales de toutes les civilisations humaines. Et du coup, placer les meurtres de femmes dans la catégorie de féminicide ou placer la destruction de l'environnement dans la catégorie écocide qui fait écho à génocide, cela implique un positionnement politique sur le caractère absolument impossible à supporter, insupportable de ces phénomènes.
Alors ça me fait penser à une autre catégorie de mots qui se termine en phobie. Et notamment, dans le débat public, la notion d'islamophobie, alors qui, en France, a fait énormément débat. Est-ce que c'est là aussi parce que si on, disons, on acceptait l'idée qu'il y ait une islamophobie, ça supposerait qu'il y ait des actions concrètes pour lutter contre. Est-ce que c'est ce phénomène-là qui fait que le pouvoir en place, par exemple, hésite, en tout cas, à endosser ce terme, Cécile Alduy?
Oui, alors ça, c'est un mot extrêmement controversé, parce que il est justement compris comme un instrument politique qui aurait été utilisé, j'emploie du conditionnel parce que c'est vraiment difficile à trancher, qui aurait été utilisé par des groupes pour revendiquer que l'islam en tant que religion soit non seulement protégé, ce qui est normal dans une société laïque, mais soit protégé de toute critique. Or, là, du coup, on vire vers la question du blasphème, du droit au blasphème, etc. Et donc, c'est une notion extrêmement glissante, parce que justement, les actions concrètes qui doivent en découler deviennent controversées. Est-ce que lutter contre l'islamophobie, plutôt que la haine anti-musulman, cela impose de protéger la religion en tant que religion, ce qui pose d'énormes problèmes législatifs dans un régime comme le régime laïque français, ou est-ce que ça implique simplement de protéger les personnes qui seraient l'objet de critiques, d'appels à la haine, etc.
Est-ce que vous pensez du coup, Cécile Alduy, que lorsque ces mots apparaissent comme ça dans le débat public, ils ont été suffisamment réfléchis pour accompagner une stratégie politique délibérée, disons.
Oui, je pense absolument. Alors, pour l'islamophobie, il y a encore une histoire à faire du mot, de son apparition et de son adoubement par certains groupes et pas par d'autres. Pour féminicide, c'est indéniable, et écocide également. Il y a une conscience très forte des enjeux de mobilisation politique qu'il y a derrière le vocabulaire.
Un autre mot, alors, qui est plus récent. Non, il existe depuis longtemps, mais on va dire que la façon dont il est utilisé aujourd'hui dans le débat public et dont les médias se le sont appropriés assez rapidement est assez, peut-être exemplaire. Vous allez nous le dire, Cécile Alduy. J'y faisais référence au tout début d'émission. Déplacement d'Emmanuel Macron cette semaine à Mulhouse pour annoncer des mesures afin de lutter contre le séparatisme islamiste.
La République doit tenir ses promesses, on doit lutter contre les discriminations, mais de l'autre côté, on doit lutter contre le séparatisme.
Le chef de l'État doit annoncer d'un instant à l'autre de premières mesures contre ce qu'il appelle désormais le séparatisme islamiste.
On doit lutter contre le séparatisme. Parce que quand la République tient pas ses promesses, d'autres essaient de la remplacer.
Notre ennemi, c'est le séparatisme islamiste. Emmanuel Macron en visite à Mulhouse. Aujourd'hui, a livré ses toutes premières pistes. Mulhouse, vous le verrez, sur le terrain, le président de la République a été rattrapé.
Alors, cette stratégie de lutte contre le séparatisme islamiste, elle doit se construire à mes yeux autour de quatre lignes de force.
Cécile Alduy, qu'est-ce qu'on peut déduire des intentions du chef de l'État lorsqu'il utilise ce terme de séparatisme ?
Alors, je pense que c'est une manière à la fois de remplir la promesse de parler sur la situation en France et le problème de l'islamisme en France, à la fois sa version extrême du djihadisme, mais aussi le fait que dans certains territoires, la religion prenne la place qu'avaient eu auparavant les services sociaux, l'école, etc. Mais sans reprendre le vocabulaire de la droite extrême et même de la droite, qui est considéré par le président comme stigmatisant de toute une catégorie de la population française qui serait les musulmans dans leur ensemble. Et donc, la stratégie, c'est à la fois de décrire le phénomène avec un écho par synonymie à ce que d'autres ont appelé les territoires qui font sécession ou le communautarisme. Donc, proposer un synonyme, mais différent, pour à la fois décrire le risque que toute une catégorie de la population ne se sente plus concernée ni par les lois de la République, ni par un devenir commun dans la République, mais sans faire le jeu de l'adversaire politique, qui est ici l'extrême droite en particulier, qui serait d'alimenter, de mettre de l'eau dans leur moulin. Et donc c'est dans l'extrait qu'on vient de voir, à chaque fois qu'il en parle, Emmanuel Macron prend le soin de donner l'autre versant, qui est la lutte contre les discriminations, ajouter des services sociaux, donc faire aussi le travail d'être là en tant que République dans ces quartiers. Ce qui est intéressant dans ce mot, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire des séparatismes en France. Et c'est là où je ne sais pas si toutes les conséquences de ce terme ont été pesées. On a parlé de séparatisme corse, basque, même breton, qui ont été des luttes de populations françaises soutenues par de vastes segments de ces régions, avec cette catégorie de violence attachée à elle, mais avec aussi l'idée que la division a toujours été interne à la République.
Donc ça pourrait quoi donner une forme de légitimité à ceux Absolument. Qui se réclameraient de ce séparatisme ?
C'est-à-dire que c'est assez complexe, parce que d'un côté, ça... Je peux pas dire que ça banalise, mais ça normalise dans une histoire longue le fait qu'il y ait des populations au sein de la population française qui se réclament d'une identité différente, séparatisme basque, corse, et qui demandent des droits. D'ailleurs, l'exemple corse est extrêmement révélateur. Et justement, la Corse, on leur a accordé des droits différents d'autres territoires français. Donc ça peut aussi avoir pour conséquence de légitimer certaines de ces revendications.
Cécile Alduy, pour qu'un terme s'impose dans le débat public, c'est un petit peu trop tôt s'agissant du séparatisme islamiste pour voir, on verra bien s'il devient pérenne ou pas, mais est-ce que pour qu'un terme s'impose, il faut à minima qu'il corresponde à une réalité ou en tout cas à la façon dont le public ressent cette réalité. Je pense par exemple à Jacques Chirac en 2002 quand il impose le terme d'insécurité dans le débat politique. Manifestement, Ça a entré en écho avec un ressenti important au sein de la population.
Alors, je pense que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que soit un homme politique peut trouver le mot juste qui correspond au ressenti de la population française à un moment donné, soit il peut aussi offrir un mot nouveau qui leur permet de comprendre une réalité confuse auquel ils sont en prise. C'est-à-dire que le rôle du politique n'est pas forcément simplement de se faire écho d'une prise de conscience préalable de la population sur des problèmes qui n'avaient pas été vraiment mis à l'agenda. Ça peut aussi il peut aussi avoir le rôle d'initiateur d'une prise de conscience ou donner les clés explicatives d'un moment. Et je pense que, par exemple, séparatisme islamiste a peut-être, dans l'idée d'Emmanuel Macron, la vocation à apporter un terme plus précis à quelque chose qui est ressenti largement, mais très confusément, comme un problème avec lequel on ne sait pas comment ni en parler, ni le gérer.
Il y a des mots qui servent aussi dans le débat politique et dans le débat public plus largement aujourd'hui, Cécile Alduy, à reconfigurer les appartenances identitaires. On parle de personnes racisées, mais il y a notamment les identités sexuelles avec les mouvements LGBTQ, avec peut-être aussi d'autres lettres, mais qui sont de plus en plus précises. Est-ce que là, on est aussi dans un combat politique à travers l'utilisation de ces mots? Et petite question subsidiaire, est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'américanisation, si ce n'est du débat politique, mais en tout cas une américanisation du combat linguistique politique?
Alors oui et oui. Donc pour reprendre plus dans le détail, ce vocabulaire, il est éminemment politique, parce que l'enjeu, c'est que ces identités reconfigurées soient reconnues. Et s'il n'y a pas de nom pour les nommer, il n'y a pas de reconnaissance possible. Et on est vraiment dans un combat pour la reconnaissance. C'est même pas des combats pour des droits ou pour de l'égalité. C'est vraiment un combat pour l'identité, la reconnaissance d'identité spécifique. Et oui aussi à l'américanisation, au sens où très souvent, ce vocabulaire, notamment sur les combats autour de l'identité sexuelle, viennent des États-Unis, viennent d'ailleurs des divisions internes au mouvement LGBT sur les appellations et les configurations légitimes de ce spectre d'identité. Et le risque, mais qui est à mon avis un risque assumé, c'est que à la fois ce vocabulaire et les combats qui sont derrière restent l'apanage d'extrêmes minorités. Car il y a un tel degré de spécification de ce vocabulaire, donc il faut faire extrêmement attention, donc c'est racisé mais avec un point médian, etc., etc., qu'on s'auto-exclut d'un débat plus large en proposant des mots que très peu de gens maîtrisent, finalement.
Ce qui pourrait peut-être valider alors un autre mot qui a été popularisé, enfin repopularisé en tout cas par Jérôme Fourquet, qui est celui de l'archipélisation du territoire français. C'était un mot qui était évidemment emprunté à Édouard Glissant et qui là, on le voit, est très très souvent utilisé par les hommes et les femmes politiques en disant ben voilà, c'est une situation qui effectivement existe en France. Mais pour rester peut-être sur l'idée d'américanisation, Cécile Alduy, ou en tout cas plutôt d'anglicisation des termes politiques. Est-ce que c'est vraiment de l'anglais d'ailleurs ou est-ce que c'est du globish? Écoutez ce petit extrait qui a pas mal circulé ces derniers temps sur les réseaux sociaux.
Nous, on a trois grosses valeurs. 1. Intensité. 2. Client et business focus. On veut des gens qui sont business, business, business. Et troisième valeur, team player. On a une stricte no asshole policy chez Sheffield. C'est pas parce qu'on est très bon qu'on a le droit d'être très con, bien au contraire.
Voilà, chez Sheffing, ça ressemble à un sketch. Moi, j'étais persuadé que c'en était un. Ça n'est pas un sketch. C'est-à-dire, c'est vraiment une société, une start-up qui existe. Son PDG qu'on vient d'entendre, il s'appelle Théobald Benzmann. Là aussi, ça fait un peu nom, un peu parodique, mais manifestement, c'est bien son nom. Il a lancé un service de traiteur en ligne. Alors, évidemment, c'est un discours extrême, mais est-ce qu'il est révélateur, là aussi, peut-être, alors d'une autre forme de langage qui s'insinue dans le débat politique, où on met un petit peu d'anglais, on change les mots, on les euphémise? Et ça a sans doute aussi une incidence sur la nature du débat.
Oui, alors on a beaucoup parlé avec l'avènement d'Emmanuel Macron à la présidence de cette anglicisation de vocabulaire politique avec la Startup Nation, la French Tech, les business process, etc., le updating, l'upgrading, enfin j'en passe et des meilleurs. En fait, je vois ça à la fois comme un symptôme d'une réalité de fait qui est que les dirigeants économiques appartiennent à des sphères linguistiques anglo-saxonnes et donc leur langue professionnelle est l'anglais et que cet anglais, c'est un anglais international, commercial, qui est justement dépolitisé. Alors ça, c'est le paradoxe, c'est qu'en fait, l'intrusion de l'anglais dans le discours politique dépolitise le politique en faisant passer des discussions économiques comme des discussions qui pourraient se passer de toute mise en contexte à la fois culturel, historique, mais aussi sur les conséquences sociales et politiques de ces décisions. Donc cet anglais international, très déshumanisé au sens où tout le monde utilise la même chose, se passe de toute réflexion sur les décisions politiques et les idéologies qu'il y a derrière ces décisions. Et ça, c'est je pense, une accentuation avec la présidence Macron. Tous ses ministres sont dans ce registre de vocabulaire.
Il y a quelques mois, Cécile Alduy, dans une interview que vous aviez donnée à Libération, vous évoquiez, alors peut-être dans un champ différent, les conséquences de la crise des Gilets jaunes, où vous disiez que cette crise avait permis de faire entendre dans le débat politique une langue populaire telle qu'elle est parlée au quotidien. Ça, c'est une langue qui avait disparu, enfin, à supposer qu'elle ait existé d'ailleurs dans le débat politique.
À supposer qu'elle existait dans le débat politique, je pense qu'il faudrait revenir à plusieurs décennies en arrière. Sur le long terme, on note une uniformisation du discours politique avec un double phénomène qui est que la classe politique elle-même vient de catégories sociales de plus en plus restreintes. Il y a très peu de diversité socio-professionnelle parmi les hommes politiques. Et d'autre part, qui avec la médiatisation du discours politique, les éléments de langage uniformisent encore plus ce qu'on peut entendre de la part des hommes politiques qui en plus font très attention à ne pas faire de bourdes, de gaffes, etc. Du coup, c'est très lisse comme discours et on n'entend absolument pas les gens qu'on va croiser au café du coin en train de boire leur café et manger leur croissant. Les gilets jaunes, c'est des gens qui n'appartiennent pas aux classes dirigeantes et qui parlent de leurs problèmes concrets, ce qui est aussi quelque chose qui a disparu du discours politique, c'est le concret, le quotidien, avec un discours non filtré. Donc effectivement, c'était la première fois depuis très longtemps qu'on n'avait pas entendu des gens parler normalement.
Mais est-ce qu'on est sûr, Cécile Alduy, que les gens qui vont manger leur croissant au café du coin, ils accepteraient d'entendre des politiques parler comme ils parlent eux? Je pense par exemple à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il avait un vocabulaire qui était censé être un vocabulaire populaire et ça lui a été énormément reproché.
Alors ce qui lui a été reproché, c'est surtout sa syntaxe qui était hallucinante, mais son vocabulaire aussi. Je pense que c'était aussi un de ses aspects attractifs et séduisants pour bon nombre de gens. Jacques Chirac aussi est connu pour ses saillies assez triviales, on va dire, était apprécié pour ça, son caractère près du cul des vaches, comme on disait. Donc moi, je pense pas que ce soit forcément négatif, mais il faut que ce soit sincère. Et donc, quand quelqu'un comme Laurent Wauquiez parle un langage soit outrancier, soit vulgaire, ça passe pas du tout parce qu'il a été élevé dans le 7e arrondissement et ça ne correspond pas à son identité sociologique et professionnelle. Mais s'il y avait plus de diversité socio-économique parmi le personnel politique, je pense que ça serait pas du tout pris comme un désavantage. L'autre chose que je veux dire, parce que ça permet de relier ce qu'on a dit avant, il y a cette euphémisation par l'anglicisation, etc. Mais ça, c'est justement le vocabulaire des dirigeants qui sont en train d'enrober des réalités économiques qui peuvent être extrêmement violentes d'un vocabulaire très lisse, très policé. Et c'est étonnant que justement ce soit les militants qui revendiquent des actions qui n'ont pas encore eu lieu, comme donc les actions pour les violences contre les femmes, l'écocide, etc., qui, eux, doivent revendiquer un vocabulaire beaucoup plus percutant. C'est comme si, d'un côté, les classes dirigeantes adoucissaient le discours pour que tout passe comme une petite dragée bien sucrée, tandis que les classes, soit dominées, soit revendicatives, elles ont besoin de crier aujourd'hui pour se faire entendre.
Alors on avait avec vous, Cécile Alduy, qu'il y avait des mots qui apparaissaient, des mots qui ressurgissaient mais avec des sens différents. Puis il y a aussi des mots qui apparaissent extrêmement solides et figés mais qui ne sont peut-être pas si solides que ça. Et il se trouve que il y a quelques mois, les éditions Anna Moza ont lancé une collection de petits formats intitulée « Le mot est faible » avec l'idée c'est de reprendre un terme très connu mais qui a peut-être été dévoyé avec l'intention de le redéfinir. Bonjour Antoine Ulster.
Bonjour.
Et parmi ces termes, la démocratie.
Oui, c'est un terme auquel s'est intéressé le politiste Samuel Hayat que j'ai interrogé pour lui demander en quoi l'usage de ce terme était disputé depuis plusieurs années, et notamment depuis les grands mouvements sociaux de la décennie passée. On l'écoute.
D'un côté, la démocratie est de plus en plus utilisée par les gouvernants, par les puissants, pour justifier leur pouvoir et puis pour justifier que l'on ne puisse pas mettre en question leurs décisions une fois qu'ils ont été élus. Et puis d'un autre côté, on voit l'apparition dans les soulèvements populaires d'un autre usage du mot démocratie, d'une demande d'une démocratie dite réelle. Et on sent donc qu'il y a autour de ce mot démocratie une controverse fondamentale dont la résolution est extrêmement importante pour l'avenir de nos régimes.
Et donc tout l'enjeu pour les citoyens et les militants qui souhaiteraient investir ce mot d'un sens plus politique, c'est de lutter pour se réapproprier un mot qui serait donc aujourd'hui vidé de son sens originel.
Il s'agit, si vous voulez, de retourner le mot démocratie qui est devenu hégémonique dans le langage des puissants, de le retourner contre eux et pour dire vous êtes en train de tout simplement nous proposer de la fausse monnaie en parlant de démocratie. Et ça, ça passe tout simplement par la réappropriation du mot démocratie et la mise en lumière de ce double sens-là. La démocratie repose sur le pouvoir du peuple et puis sur le pouvoir en faveur du peuple.
Et si une conflictualité apparaît autour du mot démocratie, c'est peut-être bon signe, cela traduit peut-être la vitalité qui existe autour de cette démocratie aujourd'hui.
Ce qui est extrêmement dangereux dans le discours du pouvoir, qui nous dit que dans une démocratie, si on écoute Emmanuel Macron il y a quelques semaines, que dans une démocratie, il est très important de ne pas contester le caractère démocratique de l'autorité des élus, de l'autorité des gouvernants. Ce qui est extrêmement dangereux dans ce discours, c'est justement qu'il élimine cette vitalité. La vitalité démocratique, elle vient justement du fait que des gens ne se satisfont pas des formes instituées de la démocratie et essayent d'en demander plus. Et c'est dans cet usage-là, dans cet usage protestataire du mot démocratie, que se joue cette vitalité et que se joue ce dynamisme. Et en ce sens-là, tous les discours qui consistent à dire « puisque nous sommes en démocratie, il faut arrêter de protester » sont des discours qui non seulement sont trompeurs sur le sens de la démocratie, mais qui sont dangereux et qui accompagnent toute une série de tournants autoritaires ou de possibilités autoritaires des démocraties.
Voilà, c'était le politiste Samuel Hayat qui vient de publier aux éditions Anna Mossa ce petit ouvrage intitulé « Démocratie ».
Cécile Alduy.
Oui, moi je trouve ce qui est très intéressant, c'est que, et pointé là-dedans aussi, d'où vient la légitimité démocratique, avec cette ambiguïté de « démos », le peuple, et toutes les interprétations possibles, donc c'est aussi un autre mot à resémantiser, le peuple.
Un tout dernier mot, Cécile Alduy, je le rappelais en début d'émission, vous êtes professeur de littérature à l'université Stanford en Californie. Est-ce que les mots qui sont utilisés aujourd'hui dans le débat politique disent quelque chose du rapport qu'entretiennent les hommes et les femmes politiques avec la littérature ?
Malheureusement, pas beaucoup, je dirais. Je suis désolée de décevoir sur ce point de vue.
Non, mais alors, ça ne veut pas être dire. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que on peut considérer qu'ils lisent beaucoup de littérature quand on les écoute ?
Toujours pas, désolé. Alors Emmanuel Macron beaucoup, mais ça c'est plutôt du côté du storytelling et de se mettre dans les pas de personnages romantiques comme Julien Sorel ou Rastignac. Mais ça n'a malheureusement, ou je ne sais pas si malheureusement d'ailleurs, aucune influence sur les décisions politiques elles-mêmes.
Eh bien merci beaucoup Cécile Alduy d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Politique, c'est une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Séverine Cassard avec à la prise de son Florent Bujon. Émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous pour ma part lundi pour la transition dans les matins de France Culture et dans un instant le journal de 12h30.